Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débats et de décryptage. Notre invitée ce soir à 18h20, elle publie un livre choc sur la face cachée du tout numérique. Le coût humain de nos smartphones, le grand gaspillage des data centers, véritable fléau écolo. Elle nous en parlera, elle s'appelle Inès Leonarduzzi et dirige l'ONG Digital for the Planet. Le constat qu'elle dresse fait froid dans le dos. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. On reviendra ce soir sur l'affaire des soi-disant dîners clandestins. Qui dit vrai ? On en parlera. 19h15, la carte blanche d'Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de l'Express, pour une ode à l'école républicaine. Et à 19h20, le Club des idées, comme chaque soir, grand débat sur les nouveaux combats des féministes. 50 ans après le manifeste des 343 pour le droit à l'avortement, tout n'est pas encore gagné. Égalité en entreprise, égalité salariale, éducation, trop genrée aussi. Quelle cause reste-t-il à défendre ? Et que penser des militantes qui prônent un renversement radical pour en finir, disent-elles, avec le patriarcat ? Eh bien, on en parlera avec nos invités tout à l'heure. Voilà pour le programme de ces deux heures. D'abord, toute l'info avec Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tout juste 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Voilà, je suis vacciné, c'est un soulagement parce qu'on a aussi des petits-enfants et qu'on a envie aussi de rencontrer la famille.
Symbole de l'accélération promise de la campagne de vaccination, le Stade de France a ouvert ses portes aujourd'hui. Il rejoint la liste des grands centres voulus par le gouvernement.
Bug en série pour la reprise de l'école à distance dans plusieurs régions. Cela n'a pas empêché Emmanuel Macron de se connecter avec des élèves de 3e en plein cours d'histoire géo.
Et il leur a notamment annoncé qu'a priori, ce confinement serait le dernier. Les enfants des soignants et des personnels prioritaires, eux, ont retrouvé leur classe et leurs enseignants. Pas vraiment jaloux, vous l'entendrez, de leurs petits camarades qui restent à la maison.
Au sommaire également, ce soir, va-t-on enfin retrouver le corps d'Estelle Mouzin ? Les fouilles ont en tout cas repris aujourd'hui après les indications de Monique Olivier.
Recréer de la peau artificielle. Une entreprise française, Urgo, se lance ce défi. Elle va investir 100 millions d'euros dans le projet.
Et puis le retour du grand froid branle-bas de combat pour protéger les plantations. Les vignes notamment qui sont très fragiles à cette époque.
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,47% ce soir à 6131 points.
La météo avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Le soleil brille mais il fait un froid glacial.
Oui, alors demain, ce qu'il faut retenir de cette information, c'est que vraiment le ciel sera lumineux et ensoleillé sur presque tout le pays. Les températures, elles chutent encore avec de nombreuses gelées matinales. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Depuis ce matin, le Stade de France s'est donc transformé en vaccinodrome géant.
Oui, avec l'objectif à terme 10 000 injections par semaine.
Et Yasmina Katou, vous avez passé la journée sur place, vous y êtes d'ailleurs toujours, et vous avez rencontré, Yasmina, des nouveaux vaccinés très soulagés. Hein.
Oui, c'est le cas de Nordine. Cet habitant de Seine-Saint-Denis attendait avec impatience de se faire vacciner. À 70 ans, il sort du chapiteau avec un précieux sésame en main.
Et là, maintenant, vous avez votre petit papier qui dit que vous êtes vacciné.
Voilà, je suis vacciné. Puis j'ai un rendez-vous pour le 4 mai pour la deuxième dose. C'est un soulagement parce qu'on a aussi des petits-enfants et qu'on a envie aussi de rencontrer la famille. Donc ça nous permet aussi de...
De reprendre une vie normale, en fait.
Oui, oui, c'est ça.
Dans le box d'à côté, un étudiant en médecine a enfin pu recevoir sa dose à seulement 23 ans. Il voulait rassurer ses patients en gériatrie.
Je suis bien avec monsieur Essid Majed.
C'est ça.
Vous êtes professionnel de santé ?
Oui.
Bras gauche, bras droit ?
Gauche. Je pourrais voir la fiole.
Qu'est-ce qui est écrit alors ?
Pfizer.
Rassuré ?
Ouais, rassuré.
Et puis, sous les chapiteaux, il y a d'autres candidats au vaccin, pourtant non éligibles. Jean a reçu le précieux sérum à...
64 ans.
Mais à l'intérieur, ils ne vous ont pas embêté pour vous dire que vous n'avez pas de comorbidité ou quoi ?
Non, non. Ils m'ont juste demandé que mon âge. Ils m'ont demandé si j'avais, comme vous dites, la comorbidité. J'ai dit non et puis ça s'est bien passé. Donc, ils ne m'ont pas embêté du tout.
Jean recevra sa deuxième dose dans un mois tout pile. Comme lui, d'autres sexagénaires sans comorbidité se sont fait vacciner aujourd'hui.
Merci beaucoup. Yasmina Katou, en direct du Stade de France, on précise qu'une quarantaine de vaccinodromes sont ouverts ou en passe d'ouvrir dans tout le pays. Et puis aujourd'hui, c'était également le début des vaccinations dans les hôpitaux militaires. Concernant le vaccin AstraZeneca, l'Agence européenne des médicaments indique ce soir qu'elle est toujours en train d'évaluer de potentiels liens avec les rares cas de thrombose observés. Un peu plus tôt, pourtant, l'un de ses responsables faisait part, lui, de liens avérés.
Bis repetita pour l'école à distance, qui, comme l'an dernier, a connu aujourd'hui des débuts assez laborieux.
Bug et cyber cyberattaques au programme de l'école à la maison, saison 2, des serveurs numériques inaccessibles ou défaillants dans 6 régions. Explication, ces serveurs dépendent de l'opérateur OVH qui a été victime, vous le savez, il y a plusieurs semaines d'un incendie à Strasbourg. Le ministre de l'Éducation a aussi parlé d'attaques informatiques sur le site du CNED, Ma classe à la maison, mais ça va un peu mieux ce soir.
En tout cas, cela n'a pas empêché Emmanuel Macron de dialoguer en visioconférence avec des élèves d'une classe de 3e du collège Itard à Oraison, dans les Hautes-Alpes.
Un collège qui reste ouvert pour accueillir des élèves enfants de soignants ou de personnel prioritaire. Alors, il est intervenu, le président, en plein cours d'histoire géo. Imaginez, tiens, Emmanuel Macron qui apparaît dans la classe. Et le président leur a annoncé qu'a priori, eh bien, ce confinement serait le dernier.
Bonjour à vous et bonjour à tous vos élèves. Bonjour à tous.
Bonjour.
En tout cas, merci beaucoup de m'accueillir quelques instants. Je voulais vraiment vous remercier, à travers vous, remercier également vos parents. C'est important de continuer, de perdre le moins de temps scolaire possible durant cette période. On doit freiner le virus, mais continuer à apprendre. Moi, je tiens beaucoup à ce que l'école reste ouverte au maximum. On pense quand même qu'on aura, par cet effort collectif, là, des 4 prochaines semaines, bien freiné le virus un peu partout. Et puis, on aura continué d'accélérer la vaccination, ce qui nous permettra d'être dans une situation plus confortable et de continuer cette course de vitesse en quelque sorte, de prendre le virus en tenaille entre les mesures de freinage que vous connaissez bien maintenant et la vaccination. Et donc je pense que jusqu'à la fin de l'année scolaire ensuite, il ne devrait pas y avoir à nouveau de confinement.
Échange donc cet après-midi entre le président et des collégiens des Alpes de Haute-Provence.
Les enfants de soignants et des personnels prioritaires, on le disait, sont eux accueillis depuis ce matin dans les classes afin de permettre à leurs parents d'aller travailler.
Et c'est le cas notamment à Beauzelle, près de Toulouse, où vous vous êtes rendu, Benjamin Peter, avec des enfants plutôt contents d'être à l'école plutôt qu'à la maison.
Oui, il faut dire que beaucoup ont testé aussi l'école à la maison l'année dernière et Andrea, dont la mère est sage-femme et le père travaille à Airbus, préfère de loin faire son exercice de grammaire sur les adjectifs en classe.
J'aime pas trop être à la maison parce que je suis toujours seule en train de faire le travail. Je préfère être à l'école parce que je travaille mieux, je comprends mieux et tout ça.
Et puis on se fait aussi de nouveaux copains qui viennent d'autres écoles de la commune. Sandra Da Silva s'est portée volontaire pour enseigner à cette classe de CM1-CM2.
Je retrouve certains élèves que j'ai eus au printemps dernier aussi, qui ne sont pas dans ma classe en temps normal, mais j'étais disponible. J'organise en même temps le distanciel pour ma classe, mais ça me paraissait normal de venir aussi aider les enfants des personnels qui sont mobilisés pour gérer tout ça.
En tout, dans l'école Henri Matisse, 25 enfants de la petite section au CM2 sont venus ce matin avec leur repas froid, puisque la cantine, elle, est fermée. Mais Virginie Delaunay, la directrice, a hâte de retrouver tous ses élèves.
On espère justement que ça va durer qu'une semaine, de façon à récupérer nos élèves dès le 26 avril en présentiel. C'est vraiment important de les avoir tous sur place.
Et dans toute l'Académie de Toulouse, près de 10 000 écoliers et collégiens prioritaires ont été accueillis aujourd'hui dans 900 établissements.
Le reportage de Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse.
Une enquête ouverte par le parquet de Paris pour mise en danger de la vie d'autrui après la messe de Pâques, célébrée samedi à l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile. Ça se trouve dans le 9e arrondissement de Paris, sans aucun respect des gestes barrières.
Et de son côté, le diocèse fait part de sa stupéfaction.
La reprise des fouilles aujourd'hui dans les Ardennes, à la recherche d'Estelle Mouzin.
De nouvelles recherches à la lumière des déclarations de Monique Olivier, l'ex-compagne de Michel Fourniret. Pour la première fois, vous savez qu'elle a reconnu avoir joué un rôle dans la séquestration de la petite fille et donné des indications sur le lieu où elle aurait été enterrée par le tueur en série. Pour la famille, c'est l'espoir de pouvoir enfin retrouver le corps de l'enfant. Maître Didier Seban est le père d'Estelle Mouzin.
Jusque-là, elle s'était cantonnée dans une version disant qu'elle était simplement informée, mais qu'elle avait créé l'alibi, mais qu'elle n'avait pas participé. Et je crois que là, il y a eu un tournant. Ce sont des aveux de sa participation, mais tous les meurtres de Michel Fourniret, ou presque, ont été commis à quatre mains. C'est Monique Olivier qui a été sa muse criminelle, si j'ose dire. Il avait besoin d'elle, et donc c'est à elle qui racontait tout. C'était elle qui était son miroir. Évidemment, Michel Fourniret ne peut plus parler aujourd'hui. Il est muré dans une maladie mentale qui fait que je crois qu'on ne tirera plus rien de lui. L'espoir, c'est Monique Olivier, pour qu'elle puisse nous aider à retrouver Estelle.
Maître Didier Seban, l'avocat du père d'Estelle Mouzin, joint pour Europe 1 par Marion Dubreuil.
Le réquisitoire, toujours à propos de justice, dans le procès d'un attentat djihadiste déjoué, c'était en 2016.
Oui, la perpétuité a été requise aujourd'hui contre Reda Kriket et ses deux co-accusés. Puis dans l'affaire du Mediator, le parquet fait appel de la relaxe partielle des laboratoires Servier. Relaxe pour les faits d'escroquerie et d'obtention indue de mise sur le marché de ce médicament.
Europe 1, Julien Bugier.
18h08, restez avec nous dans quelques secondes. L'entreprise Urgo qui investit 100 millions d'euros pour créer une peau artificielle, on vous dit tout.
Et puis la baisse des températures, cauchemar des viticulteurs notamment.
À tout de suite. La suite du journal avec cette petite révolution dans le monde de la santé. Grosse révolution même. Le groupe Urgo, installé près de Dijon, en Côte d'Or, veut recréer, tenez-vous bien, de la peau artificielle.
Ouais, Urgo, dont on connaît tous bien sûr les pansements. Alors réussir à reconstituer une peau artificielle, ce serait évidemment une prouesse médicale. Hein, Carole Ferry, le groupe d'ailleurs, n'a pas lésiné sur les moyens.
Bah oui, c'est quand même un investissement de 100 millions d'euros qui a même été salué dans un tweet par le président Emmanuel Macron qui parle d'une grande fierté. L'État a d'ailleurs participé à hauteur de 22,8 millions. Alors l'idée concrètement, c'est de recréer, vous l'avez dit, de la peau artificielle. Aujourd'hui, quand il faut faire une grève, on prélève de la peau ailleurs sur le corps du patient. C'est très fréquent par exemple chez les grands brûlés. Et forcément, eh bien, ce serait une révolution d'avoir une sorte de vraie peau à greffer, un peu comme un pansement, sauf que c'est extrêmement compliqué à reproduire. Le groupe Urgomédical n'est pas le premier à tenter le pari, mais son président, Guirec Leloup, est convaincu qu'il a les atouts nécessaires pour réussir. Il était l'invité de La France Bouge ce midi sur Europe 1.
On pense qu'on peut y arriver parce qu'on s'est entouré d'une dream team française, des meilleurs chacun dans leur domaine, un consortium. Par exemple, il y a le laboratoire, le LBTI, qui est un laboratoire spécialisé dans la plaie, quelles sont les molécules, les cellules qui fonctionnent et qui aident à la cicatrisation. Et on a aussi des acteurs un peu plus originaux, comme par exemple Dassault Systèmes, qui va nous aider à modéliser le comportement du corps humain pour eh bien, aller plus vite dans le développement du produit.
Alors là, tout se met en place, mais il faudra du temps pour voir si ce consortium réussit son pari, sans doute au moins une dizaine d'années.
Merci beaucoup à Carole Ferry du service Éco d'Europe 1.
L'économie, justement, un an après avoir sauvé Air France de la faillite, en lui accordant un prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros et garantissant un prêt bancaire de 4 milliards d'euros, eh bien le gouvernement français vole une nouvelle fois au secours de la compagnie aérienne.
Oui, une deuxième rallonge avec des contreparties, comme on vous l'annonçait dès hier. Prix à payer pour Air France, la compagnie devra céder 18 créneaux de décollage et d'atterrissage qui seront attribués à d'autres compagnies déjà présentes à l'aéroport d'Orly.
Alors, vous l'avez remarqué, un coup de froid s'est aussi abattu sur la France depuis maintenant 48 heures et ça va durer, nous dira tout à l'heure Anissa Haddadi. Après les températures estivales de la semaine dernière, le contraste est saisissant. Et si notre morale en prend un coup, les plantes, elles, non plus n'apprécient pas du tout, Isabelle.
Oui, Anissa nous dira même qu'on a battu des records de froid hier et que ça devrait encore baisser demain matin.
Moins 6 degrés ce matin, Beauvais, dans l'Oise par exemple.
Alors, c'est pas bon effectivement pour notre morale, c'est pas bon non plus pour les fleurs, pour les plantes, pour les vignes qui commençaient à bourgeonner. Pour elle, Johanna Chabas, ce coup de froid, c'est le pire des moments. Et évidemment, les arboriculteurs, les maraîchers et bien sûr les viticulteurs sont très inquiets et ils cherchent la parade.
Oui, dans presque toutes les régions de France, la principale méthode sera de réchauffer l'air autour des récoltes. Pour y arriver, Sylvain Thiollier, viticulteur en Savoie, prévoit une solution originale, faire voler un hélicoptère au-dessus de ses vignes.
Là, le principe, c'est de brasser l'air plus chaud en altitude pour remplacer l'air froid qui s'accumule en bas de parcelle. Donc souvent, on fait ça au lever du jour parce que c'est souvent là qu'il fait le plus froid. Si on se met à plusieurs, on le fait voler sur une dizaine d'hectares, finalement ramener à l'hectare, ça va être autour de 200 euros.
Alors pour éviter ces dépenses, d'autres préfèrent préparer leurs plantes en amont. Gauthier Roussille possède 6 hectares de chardonnay bio près de Mâcon. Pour cet épisode de gel, il a déjà aspergé ses vignes de tisane. Et oui, ça permet de renforcer les défenses immunitaires de la plante.
On va asperger cette tisane sur la vigne. En pénétrant dans la vigne, il va permettre de concentrer la sève et donc abaisser le point de congélation. Donc ça va permettre de résister à 1 degré ou 2 degrés de plus de gel. Si la température ne descend pas en dessous, ça permet aux bourgeons de survivre et donc de sauver la récolte.
Si ce n'est pas suffisant, il lui reste, comme pour beaucoup d'agriculteurs, les bougies. Ces petits feux créent un manteau de chaleur au pied des plants. Mais à 3000 euros l'hectare, cette solution coûte cher.
La tisane pour les vignes, comme pour nous. Merci Johanna Chabas.
Le vin, c'est important quand même à consommer avec modération. Évidemment, merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30. Alors justement, tiens, la météo avec Anissa Haddadi qui nous annonce un temps plus calme demain, mais aussi Anissa, plus froid.
Mais oui, malheureusement, c'est vrai qu'après ce qu'on vient d'entendre pour les viticulteurs, c'est pas franchement des bonnes nouvelles que je vais vous annoncer, parce que même si le ciel est dégagé sur une grande partie du pays demain et que le soleil va s'installer vraiment quasiment partout, sur la Côte d'Azur et la Corse, nous aurons quand même des nuages et des averses, notamment des giboulées. Demain, ce sont les températures qui vont encore chuter, et c'est ça l'info notable, avec moins 6 à Nevers demain matin, moins 6 pour Aurillac, moins 4 à Mont-de-Marsan et Rouen, moins 3 à Saint-Étienne Vienne et à Blois, moins 2 à Clermont-Ferrand. Ça y est, on est en dessous de 0 sur Paris avec moins 1 degré demain matin, 7 degrés pour Ajaccio. Dans l'après-midi, le temps reste calme, sec et ensoleillé sur presque toute la France. Seul le Cotentin, la Côte d'Azur, la Corse et l'Alsace seront sous les nuages et les averses. Et puis les températures encore fraîches demain après-midi, hein, 7 à Dunkerque, 9 à Lille, 10 degrés seulement pour Paris, 15 à Marseille et 16 pour Perpignan. Je vous parlerai des records de froid battus ce matin. Je vous dirai ça à 18h.
Bien, 30. Mais ça progresse, ça progresse. On reprend quelques degrés demain au réveil. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure, donc à 18h30.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes, la face cachée de nos smartphones. C'est un livre choc que publie notre invitée. Elle s'appelle Inès Leonarduzzi et elle sera avec nous dans quelques secondes. À tout de suite. Notre invitée ce soir à 18h17, elle va nous éclairer sur la face cachée de notre société du tout numérique. Et c'est assez effrayant, on doit le dire. Bonsoir Inès Leonarduzzi.
Bonsoir Julien.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors vous êtes la fondatrice de l'ONG Digital for the Planet, qui ambitionne de rendre le numérique écolo, on peut dire ça comme ça ?
On peut le dire comme ça, en tout cas plus responsable.
Et vous publiez un essai absolument passionnant sur la question. Ça s'appelle « Réparer le futur du numérique à l'écologie ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Alors ce livre, c'est une mine d'informations sur l'impact sur la planète du tout numérique que représentent aujourd'hui nos smartphones, notre consommation, nos data centers, on va en parler. Ça représente tout ça 10% de la consommation électrique mondiale. Vous dites par exemple sur les data centers, je voudrais qu'on commence par ça parce que c'est assez saisissant, c'est un exemple assez fort, ces grands centres de stockage des données pourraient devenir plus énergivores que l'humanité tout entière. C'est vrai ça ?
Écoutez, en tout cas, ce sont les prévisions. Aujourd'hui, on a besoin de centres de stockage de données pour héberger toutes nos requêtes, toutes nos données. On en produit à foison et c'est complètement indécent d'essayer juste de les chiffrer. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'abord la manière dont on produit de la donnée,
oui.
Et ensuite avoir conscience que tout ça est une industrie très réelle, très métallurgique et qu'en fait les centres de stockage de données, les data centers,
oui,
ne sont rien d'autre que les usines du 21e siècle.
Parce qu'à chaque fois qu'on fait une petite recherche, là, comme ça, l'air de rien, sur un moteur de recherche, Google ou les autres, ça produit de la donnée et ça utilise des data centers.
Exactement. En fait, on va chercher une information qui sont stockées dans des serveurs, donc oui, logées dans des data centers. Ça demande de l'énergie, en général fossile, et aussi de l'eau, énormément d'eau, pour climatiser ces grandes machines. Hein. C'est comme un ordinateur qui chauffe, il faut le climatiser. Eh bien, c'est pareil, mais démultiplié en termes d'impact.
Les chiffres que vous donnez sont absolument effrayants. Le secteur du numérique est responsable, dites-vous, de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui représente une fois et demie plus que l'aviation civil. Et vous racontez comment tout ça représente, vous venez de l'évoquer, un énorme gâchis en termes de consommation d'eau. Par exemple, pour les 800 data centers, dites-vous, qui sont situés en Californie, c'est l'équivalent de 158 000 piscines olympiques par an.
C'est d'autant plus déplorable que la prochaine crise sera celle de l'eau, qu'aujourd'hui 2,1 milliards d'habitants dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable, que 700 enfants meurent de diarrhée par manque d'eau salubre par jour dans le monde. Donc oui, il faut absolument qu'on regarde de ce côté-là et se rendre compte de nos usages.
Alors, vous m'excusez de continuer par les chiffres, mais c'est parce que c'est vraiment votre livre, de ce point de vue-là, est une mine qui donne plein de chiffres. Et pour que chacun comprenne bien l'impact de sa consommation du numérique au quotidien, je voudrais citer cet exemple. Vous dites, page 53 par exemple, une seule photo postée sur les réseaux sociaux, on en poste tous, des dizaines par jour parfois, consomme 3 à 4 ampoules de 20 watts restées allumées pendant une heure.
C'est juste. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi rappeler que la plus grande partie de la pollution numérique environnementale, parce que j'en identifie 3, c'est la fabrication des appareils. Donc à la limite, une fois que j'ai dit ça, et c'est vrai, il faut en avoir conscience, je préfère une personne qui pose des selfies d'elle tous les jours, c'est un petit peu caricaturé, plutôt qu'une personne qui change d'appareil électronique tous les ans.
Oui, mais ce qui est fou dans votre livre, c'est qu'on peut être écolo jusqu'au bout des ongles, tant qu'on continue à consommer de l'Internet et du numérique comme on le fait aujourd'hui, tant qu'on continue à acheter des smartphones et des appareils électroniques comme cela, on pollue plus que si on trie ses poubelles, on pollue plus que si on arrête de prendre l'avion, on pollue plus que si on prend le train plutôt que sa voiture. C'est désespérant.
Alors, plus, il y a des industries polluantes qui le sont pour l'instant plus que le numérique. Mais oui, à l'heure où on numérise absolument tout, tout passe par Internet. C'est une industrie des plus polluantes qu'il faut absolument regarder. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque. C'est là où il faut appeler. Donc, on a eu la feuille de route environnement et numérique qui a émané notre gouvernement. Il y a des amendements qui ont été prévus très, très faibles, mais qui sont quand même présents dans la loi climat et résilience. Aujourd'hui, il faut continuer ce débat en France, sur l'Europe, mais également dans tous les pays du monde.
Alors, il y a le coût environnemental, on l'a évoqué, et puis il y a le coût social aussi de ce tout numérique. 14 milliards de smartphones actifs dans le monde, c'est le double de l'humanité. Il y a deux fois plus de smartphones en circulation qui sont actifs aujourd'hui dans le monde qu'il y a de personnes à travers la planète. Et ces smartphones, dites-vous, contiennent des métaux rares dont l'extraction détruit des environnements, mais aussi des vies humaines. Vous prenez par exemple l'exemple du coltan, qui est un métal rare, riche en uranium, qu'on a tous dans nos smartphones. En République démocratique du Congo, dites-vous, ce sont des enfants qui creusent dans les mines car c'est plus facile pour eux de passer dans les puits de 60 cm. On pensait qu'avec les conventions internationales, tout ça c'était fini. Bah, pas du tout.
Alors, il n'y a pas que des enfants, vous avez aussi des femmes et des hommes, mais en effet, les enfants sont une main-d'œuvre peu chère. Ils sont plus dociles sur le plan du management et c'est plus facile de les faire passer dans des mines très étroites. Il y a des centaines, on a du mal à quantifier avec l'ONU le nombre de morts sous les éboulements parce que ça reste pour l'essentiel des mines artisanales. C'est un sujet très complexe, d'autant plus que pour eux, ça leur permet de payer le Minerval. Oui. C'est une taxe qui permet d'aller à l'école. Oui. Et si vous leur retirez ce job, eh bien ils en trouvent
donc
un autre.
Donc c'est insoluble.
C'est pas insoluble, mais c'est extrêmement complexe.
Oui. C'est l'effet papillon, mais avec un effet absolument dramatique à l'autre bout de la planète. Vous écrivez, page 41, « Quand une mine s'effondre, on laisse le corps, on déplace le site de quelques mètres, et the show must go on. » C'est édifiant.
Quand je suis allée en République démocratique du Congo, j'ai été atterrée par ce que j'ai pu voir. J'ai été aussi absolument émerveillée par la solidarité entre les habitants et la volonté des associations locales, de leur travail, de leur envie de sortir les enfants de l'industrie minière. C'est un pays qu'il ne faut pas regarder avec que de la condescendance et de l'effarement. En fait, ils sont juste à la pointe de ce qu'on leur demande de faire. Leurs premiers clients et commanditaires, ce sont les grandes industries technologiques.
C'est important ce que vous dites, parce que vous êtes allé sur le terrain. C'est un tour du monde que vous proposez. Alors, vous compilez un certain nombre de chiffres, de data, mais vous êtes, vous, allé sur le terrain pour constater. Ce n'est pas un livre que vous avez écrit ici dans votre bureau.
Tout à fait. Ça a été, en lançant mon ONG, je n'étais pas du tout une experte du sujet, mais j'ai voulu devenir spécialiste et j'ai voulu surtout comprendre par moi-même ce dont il en retournait. Et donc c'était, on va voyager en Bolivie, où pareil, pour l'extraction du lithium, vous avez aujourd'hui d'anciennes familles agricultrices qui cultivaient le quinoa, qui élevaient les lamas, aujourd'hui qui sont réduites à aller vivre 15 jours, revenir une semaine et repartir 15 jours dans les mines de lithium, dans le Salar des Uyuni, par exemple, qui devient une mine à ciel ouvert, alors qu'avant c'était un des plus beaux lacs de sel. Séché, vous avez...
Et tout ça pour fabriquer nos smartphones. Pardon, parce qu'il nous reste encore quelques minutes et je voudrais qu'on aborde 2-3 points encore de votre livre absolument passionnant, Inès Léonard-Duzy. Parce que le paradoxe dans tout ça, c'est qu'on veut consommer toujours plus, on veut toujours plus d'appareils électroniques, on veut toujours plus de réseaux sociaux, d'Internet de plus en plus rapide. Et le paradoxe, c'est que vous dites que tout ça génère du stress. Pour nous, citoyens, et pour nous, occidentaux, c'est une pollution intellectuelle. 40% des Français indiquent, par exemple, être malheureux dans leur travail à cause de l'hyperconnexion. Et vous donnez d'ailleurs des conseils tout à fait concrets. Alors, évidemment, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ça peut paraître peu de choses. Mais vous dites, organiser peut-être des créneaux horaires pour lire ses mails, avant de faire une recherche Google, faire travailler d'abord sa mémoire. C'est vrai que ça peut paraître rien, mais... c'est un petit quelque chose.
En fait, c'est important. En fait, tout est lié. C'est ce que j'explique. La pollution numérique est un sujet transversal. J'explique qu'il y a la pollution numérique environnementale, la pollution numérique intellectuelle et sociétale. Pour faire très court, en fait, ce que j'explique, c'est que le numérique désincarné impacte nos capacités cognitives selon la manière dont on l'utilise. Notamment, l'hyperconnexion dont vous venez de parler est un des sujets. Si nous affaiblissons nos capacités cognitives, alors l'intelligence collective est mise à mal. Et si l'intelligence collective est mise à mal, le projet de société s'effrite. Et si on n'a plus de projet de société, alors pour quelle raison étrange est-ce qu'on voudrait préserver la planète ? Donc en fait, ce que j'explique, c'est que en fait, ça ne servait à rien juste de faire un rapport sur le plan environnemental très réducteur, finalement. Il fallait expliquer qu'en fait, les conséquences sont plurielles et qu'en fait, elles sont interdépendantes.
Oui. Je voudrais vous interroger pour terminer sur une question plus d'actualité. La Convention citoyenne a débouché sur un projet de loi. Beaucoup ont dit trop timide, gadget, ça ne sert à rien. Quel est votre point de vue ?
Je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, on est loin de faire ce qu'on devrait faire vu les urgences climatiques. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est une chance qu'on ait cette convention citoyenne, c'est une chance qu'on ait une mobilisation de la jeunesse et pas que. Aujourd'hui, on a un nombre croissant de 18-30 ans qui deviennent climato-sceptiques par l'activité des lobbyistes. Il faut continuer à informer, il faut continuer à démocratiser le savoir, organiser des débats constructifs et surtout continuer ce travail interdépendant avec les régulateurs, les citoyens, le Parlement, les entreprises. Moi, je crois beaucoup en ce dialogue-là.
Bien. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait, Inès Léonarduzzi ? On jette nos smartphones à la poubelle et on reprend nos bons vieux dictionnaires ? Ça peut être une solution, ça ?
Non, parce que le numérique reste un outil fabuleux. Simplement, il faut en initier le futur et c'est tout l'enjeu. Il ne faut surtout pas dénier cette technologie. Par contre, gardons et prenons soin le plus longtemps possible de nos appareils parce que moins on en produit, mieux la planète se porte.
Bien. Merci infiniment d'être venu dans le studio d'Europe Soir. C'est absolument fascinant, hein, ce livre. J'invite tous nos auditeurs et nos auditrices à le découvrir parce qu'il y a plein de choses dedans et c'est aussi résolument optimiste parce que vous apportez des solutions et une espèce de perspective pour l'avenir. Ça s'appelle « Réparer le futur, du numérique à l'écologie ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous.
Merci à vous, Julien.
Europe 1, Julien Bugier.
18h27, restez avec nous dans quelques secondes. Le rappel de l'info et le débat des grandes voix. On reviendra notamment sur la polémique des vrais faux dîners clandestins. A tout de suite. Le rappel de l'info avec Isabelle Millier à 18h30.
Et avec des débuts chaotiques pour l'école à la maison, avec des bugs en série depuis ce matin, au moins 6 régions touchées. Des bugs qui auraient des origines diverses, hein, selon le ministre de l'Éducation. Et des attaques informatiques aussi concernant le CNED. L'ouverture aujourd'hui des premiers vaccinodromes qui devraient permettre d'accélérer la campagne de vaccination. Jean Castex, ses ministres de la Santé et de l'Intérieur se sont rendus tout à l'heure au Stade de France pour vérifier que tout fonctionnait correctement. Objectif, 10 000 piqûres chaque semaine. L'État vole au secours d'Air France, comme prévu, en devenant son premier actionnaire. La Commission européenne a approuvé une recapitalisation de la compagnie aérienne en échange de contreparties économiques, sociales et environnementales. Des centaines d'agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté ont manifesté, parfois violemment aujourd'hui à Dijon, pour peser sur les négociations de la future politique agricole commune, la PAC, qui est en cours à Bruxelles. La reprise des fouilles dans les Ardennes à la recherche du corps d'Estelle Mouzin. De nouvelles recherches à la lumière des déclarations de Monique Olivier, l'ex-compagne de Michel Fourniret. Pour la première fois, elle a reconnu avoir joué un rôle dans la séquestration de la petite fille.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le journal à 19h. La météo, Anissa Dadi, les gelées matinales seront encore plus nombreuses demain matin.
Et oui, je vous le disais, hein, à 18h à la fin du journal, il va faire encore plus froid demain matin. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, Julien, je vous donnais des records de chaleur pour une fin mars. Eh bien, hier, nous avons battu des records de froid avec moins 6,9 à Beauvais hier matin, moins 5,4 du côté d'Orléans, moins 4,9 à Chalon-sur-Saône et ces records risquent d'être battus demain matin, ça va encore baisser. On attend moins 6 degrés à Nevers, moins 5 pour Aurillac, moins 4 à Rouen, moins 3 à Périgueux et Saint-Étienne, moins 2 degrés à Besançon et Clermont-Ferrand, on attend moins 1 à Paris, 2 degrés à Bordeaux, 4 à Marseille et 7 pour Ajaccio. Demain, le soleil va briller sur quasiment tout le pays. C'est sur la Côte d'Azur, l'Alsace et la Corse que la journée sera la plus perturbée.
Merci Anissa. On vous retrouve à 19h également, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, le débat des grandes voix du mardi avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge. Bonsoir Guylaine.
Bonsoir Julien.
Marion Mour, grand reporter au service politique du Figaro. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Alors je voudrais tout d'abord que l'on revienne sur cette polémique des repas dits clandestins suite au fameux reportage de M6 qui se serait tenu chez le collectionneur Pierre-Jean Chalençon au Palais Vivienne à Paris. Ça a fait beaucoup de bruit et aujourd'hui l'intéressé a démenti en bloc parlant d'un gros poisson d'avril.
Franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. Non, je n'organise pas de dîner. Je suis un bon citoyen. Je n'organise absolument pas de soirée, de fiesta au Palais Vivienne.
Bon. Chacun jugera, si ce n'est qu'une voisine a quand même assuré lundi sur France 2 avoir été invitée pour participer au dîner du 1er avril, moyennant d'ailleurs 200 € de participation. En tout cas, ces déclarations sur la possible présence de ministres, eh bien, ça n'est pas du tout du goût du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était ce matin à ce micro.
Je voudrais dire ici qu'il n'y a pas deux règles.
La même règle pour tous existe en France. Il y a autant de restaurants qui sont contrôlés dans tous les quartiers de Paris, dans toutes les villes de France. Pas d'un côté les bourgeois qu'on laisserait continuer à festoyer, puis de l'autre le peuple qu'on viendrait contrôler. S'il y avait quelqu'un qui est membre du gouvernement à participer à un dîner, personnellement, il ne serait pas à la hauteur de sa fonction.
Bien, Guylaine Ottenheimer, on en pense qu'on veut de cette histoire. Peut-être que tout cela n'a jamais existé, mais le mal est fait. Et ça jette quand même le soupçon sur les privilèges supposés des puissants. C'est le poison du soupçon.
Vous vous souvenez, il y avait eu un dîner à l'Élysée.
De travail. Hein.
Oui, un dîner quand même. on peut travailler sans dîner aussi. Hein. Il y a le sentiment pour les moins favorisés que la crise du Covid est plus dure pour eux. C'est vrai que quand vous devez travailler un couple dans un petit appartement tout en gardant les enfants...
Ça, ce n'est pas un sentiment, Guylaine, c'est une réalité. Oui, quand voilà, on est dans 50 mètres carrés,
oui, mais le sentiment que
on
pour
est
les
moins
autres,
à l'aise que dans 150 mètres carrés.
Et les autres, ils partent dans leur maison de campagne, ils peuvent faire du click and collect, se faire livrer des petits plats tous les soirs. Donc vraiment, il y a le sentiment que la vie est vraiment trop difficile pour ceux qui ont peu de moyens et en plus qui ont des enfants. Maintenant, il y a un fantasme aussi qu'il y a des privilèges, les ministres, c'est la chose la pire. Au passage, s'il y en a un qui se fait gauler et il y a un vrai témoignage, il va avoir du mal à se défendre.
Oui.
Mais moi, j'ai peur de cette dérive vers la délation. Vous savez qu'au Canada, vous avez le droit d'appeler la police en disant qu'il y a du bruit dans l'appartement voisin et il y a un contrôle pour voir si vous êtes plus d'un certain nombre, si vous respectez les distances, etc. Donc, voilà,
en France, on n'a pas le droit de rentrer chez les gens, sauf s'il y a tapage nocturne, et à ce moment-là, ça tombe sous le coup de la loi.
Oui, mais là,
au
Canada, la délation est en quelque sorte institutionnalisée.
Oui, mais est-ce que c'est souhaitable? Ça, c'est une autre histoire. Charles Villeneuve, il y a quand même aussi une instrumentalisation politique derrière tout ça, puisque j'ai vu que l'information avait été relayée avant d'être vérifiée par des réseaux d'extrême-gauche, par des réseaux d'extrême-droite, notamment sur les réseaux sociaux.
Et ça a donné 3 millions de vues. C'est quand même assez énorme, avec des relais persistants et qui montent maintenant à 5 à 6 millions de vues cet après-midi.
Mais c'est le poison du soupçon qui entache la démocratie.
Mais je trouve, si vous voulez, la déclaration de
Chalençon,
c'est ça, misérable. Mais sérieusement misérable, que ce soit un gag ou pas, de toute façon. Parce que
le type de gag serait de très, très, très mauvais goût. Hein.
Voilà. Mais ça ne m'étonnerait pas, parce que la manière dont son avocat l'a défendu ajoute aux soupçons qu'on peut porter sur sa déclaration, je trouve. Parce qu'elle est bancale, parce qu'elle est à côté de la plaque, oui. Etc. D'autant
Le garçon est fantasque, ça on le sait.
Oui, d'accord. Mais enfin, fantasque, quand vous dénoncez des ministres que vous avez vus, etc. etc. Comme disait Guylaine il y a quelques instants, c'est pas très bon, si vous voulez, pour la fonction de politique, qui est de toute façon déjà soupçonnée d'un tas de passe-droits, ne serait-ce que durant cette crise sanitaire. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que Chalençon et consorts, ils vont avoir du mal à se dépêtrer de l'enquête préliminaire en flagrance.
Oui, oui.
Et vous avez vu les chefs d'ouverture de cette enquête.
Oui.
C'est quand même assez intéressant. Mise en danger de la vie d'autrui et surtout travail dissimulé.
Alors, on suivra évidemment la procédure judiciaire. Marion Mourgue, est-ce que quand même ça jette l'opprobre sur la politique, sur les membres du gouvernement? Tout ça intervient quand même 2 ans après les Gilets jaunes. Il y a un contexte, ça laisse des traces, ces informations, même si elles sont fausses. Ça laisse quand même des petits cailloux.
Je reviens juste sur l'information fausse, c'est-à-dire que jusqu'à il y a encore quelques heures, sur Instagram, il y avait les menus de ces dîners et des photos. Et les menus, c'était...
Je parle de la présence de ministres.
Oui, mais on voyait que ce n'était pas que le 1er avril. Donc ça laissait penser qu'il pouvait y avoir eu des personnalités politiques. Mais justement, on ne sait pas s'il y en a eu. Et qu'on le sache ou pas, j'ai envie de dire le mal est fait. C'est-à-dire que la société est tellement critique à l'égard des responsables politiques, elle est tellement méfiante et elle juge en permanence qu'il y a des abus. Et c'est vrai que les Gilets jaunes ont amplifié ce sentiment qu'aujourd'hui, les responsables politiques vont avoir énormément de mal à dire finalement non, il ne s'est rien passé.
Mais c'est normal qu'on s'interroge ou c'est du populisme ?
C'est normal qu'on s'interroge dans un contexte, Guylaine le disait tout à l'heure, dans un contexte de restriction. À partir du moment où il y a des règles, il faut qu'en effet, ces règles soient respectées par tout le monde. Et Gérald Darmanin l'a plutôt bien compris, puisque quand ce matin il résume au micro ce sentiment de deux poids, deux mesures, il sait très bien que dans sa ville à Tourcoing, c'est extrêmement mal perçu quand on a le sentiment qu'il y a des privilèges.
Est-ce que le gouvernement, d'ailleurs, Guylaine, a peut-être allé trop tarder à réagir et s'est laissé enfermer dans cette polémique? Pourquoi ne pas avoir réagi tout de suite en tapant fermement du poing sur la table?
Marlène Schiappard l'a fait. je pense que pour eux, ce n'était pas la priorité, mais c'est vrai, comme l'a dit Charles, ça a pris une telle ampleur sur les réseaux sociaux. Mais ça dit beaucoup, parce que les gilets jaunes, c'était pas seulement... c'est pas ça qui a provoqué la méfiance des politiques. C'était l'expression, et là même de cette circulation sur Internet de ces images, c'est l'expression de la haine du politique, des gouvernements, le sentiment qu'ils se servent avant de nous servir.
Oui. Alors, on va rester ensemble et on va parler justement de défiance encore. Pas tout à fait la même, mais vis-à-vis d'un vaccin. AstraZeneca, encore et toujours, on en parle après la pause. 18h39, à tout de suite. Alors, que se passe-t-il encore avec AstraZeneca? On en parle dans le débat des grandes voix. On nous avait dit que les conclusions étaient définitives, qu'il n'y avait pas de problème avec ce vaccin. Et puis aujourd'hui, on apprend que l'Agence européenne des médicaments n'a pas encore tout à fait terminé ses évaluations. Et un membre de cette même agence évoque même un lien entre le vaccin et les cas de thrombose. Ce qui pourrait encore susciter la défiance des Français, qui est très très forte. On en a parlé notamment ce week-end. Je vous propose d'écouter la maire LR de Calais, Natacha Bouchard.
À l'origine, les soignants le refusaient. Ensuite, la suspension même par le gouvernement de l'injection du vaccin a quand même créé un doute dans l'esprit des gens. Cette défiance, elle s'est aggravée. J'ai vu aussi que tous les centres qui ont reçu de l'AstraZeneca ont eu la même problématique en fait que moi.
Voilà, avec ce week-end, par exemple, 1500 doses dans le Pas-de-Calais et le Nord qui sont restées sans patients à cause de cette défiance. Ce qui est un problème, car le gouvernement mise évidemment sur l'AstraZeneca pour arriver à ses objectifs de vaccination. Tout est à refaire, Charles Villeneuve ?
Avec AstraZeneca.
Ben oui, on avait rassuré les Français, on était reparti sur un bon train, comme on dit en anglais, de vaccination.
Oui, non, mais tout indéniablement, parce que là, on a entendu la maire, donc Madame Bouchard, mais... J'ai téléphoné tout à l'heure en arrivant, vous m'avez vu le faire d'ailleurs, à deux médecins. Un médecin à Paris, que je connais bien, un cardiologue qui pique lui aussi, et un médecin à Mandelieu, qui est un médecin généraliste.
Et qui vous disent la même chose.
Et qui, tous les deux, m'ont dit, on a renvoyé complètement nos doses d'AstraZeneca au centre des centres, pas des vaccinodromes, mais des centres de piquage à Cannes, Mandelieu et à Paris. Et parce que plus aucun client n'accepte l'AstraZeneca. On a du Pfizer, on a du Moderna, on les liquide assez rapidement, mais maintenant aussi, dans les centres de vaccination, aussi, évidemment, les gens refusent AstraZeneca. Alors, il faut, si vous voulez, quand on dit que cette défiance menace notamment les vaccinodromes, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a 20 millions de Pfizer et de Moderna qui sont fabriqués en France, 20 millions, ça fait 10 millions de vaccinés qui arrivent cette semaine.
Oui. Mais le problème, c'est que l'AstraZeneca, comme on dit, il est facile à transporter, il ne coûte pas cher, et c'est celui qui a été donné aux infirmiers, aux infirmières libérales, aux médecins, aux vétérinaires. Donc c'est le vaccin du tout public, c'est le vaccin de la vaccination de masse, Marion Mourgue.
Si ce n'est qu'en 4 semaines, les indications ont changé 5 fois, y compris les âges, les... préconisation, donc finalement plus personne ne s'y retrouve et c'est vrai que ça crée un sentiment assez inquiétant pour les gens, encore plus après la suspension, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Emmanuel Macron, en suivant l'Allemagne, dit ben, on suspend pour 48 heures, les Français se sont dit bon bah alors finalement c'est qu'il n'est pas si
sauf que depuis, indolore que ça. On pourrait vous rétorquer que depuis il y a eu un effet d'entraînement quand même, c'est-à-dire qu'on a tous autour de nous des gens qui ont le droit au vaccin, qui ont eu l'AstraZeneca et puis qui se portent bien, qui n'ont pas eu d'effets secondaires, qui n'ont pas été malades. Donc on se dit bah ça fonctionne quand même.
Oui, mais si ce n'est que les gens retiennent plus l'exemple de la thrombose ou du jeune patient qui a dû être hospitalisé. Donc aujourd'hui les Français demandent plus le Pfizer ou le Moderna.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a cette inquiétude. Et qu'à la limite, les centres où il y a des créneaux, si on pouvait vacciner une autre tranche d'âge, ça pourrait compenser. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'autorisation.
On peut imaginer, Guylaine Ottenheimer, que demain, le gouvernement dise « Bon, allez, on arrête les frais avec l'AstraZeneca et puis on va faire autrement. »
C'est ce que certains pays ont commencé à faire. Je crois qu'il y a la Suède, le Danemark qui ont suspendu.
Hier soir, le principal conseiller médical du président Biden a dit que vraisemblablement les États-Unis
n'en auraient pas besoin.
Ils n'en auraient pas besoin. De toute façon, ça fait longtemps que les États-Unis disent qu'ils n'en ont pas besoin.
Voilà.
Le problème, c'est qu'il y a le choix. Enfin, officiellement, non, mais les gens se renseignent. Je vous signale aussi que, quand même, le Moderna est moins apprécié que le Pfizer.
Oui. On a l'impression que les gens,
on a l'impression que les gens aiment
goutte, donc
si on a l'impression que les gens se disent, il y en a un plus cher, je vais prendre le plus cher. Bon, il y a un petit côté. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est deux choses. C'est les médecins qui disent le rapport risque avantage et largement en faveur de l'avantage. Oui, quand on prend toute la population, s'il y a 5 morts, et 1 million de vaccinés, c'est pas grave. Sauf que si moi je suis le mort, individuellement, c'est moi qui prends le risque. Donc je trouve que c'est absolument pas...
Vous savez ce que disent tous les médecins. Tous les médecins sont unanimes et disent vous avez plus de chances d'avoir une thrombose en prenant la pilule qu'en prenant l'AstraZeneca.
C'est pas ça que les gens entendent. Les gens entendent le risque qu'il y ait des thromboses est très faible par rapport à l'avantage d'avoir vacciné des millions de gens. Mais les gens qui savent qu'ils sont un peu à risque, qu'ils ont 60... Ils se disent, non mais moi je ne prends pas le risque, c'est moi qui suis concerné, ce n'est pas le médecin qui parle. Donc je trouve que la défense du vaccin est très mauvaise. Et d'autre part, je trouve que la part des Français qui sont très mauvais en prévention, qui font du diabète, qui mangent mal, qui ne font pas de sport, ils se préoccupent de leur santé juste au moment du vaccin. Ça, je trouve ça aussi extraordinaire.
En tout cas, chacun y va de son argument. Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre en charge de la logistique de ces vaccins, a dit par exemple « Le bénéfice de ce vaccin n'est plus à démontrer. À titre personnel, et de citer des exemples, mon père, ma mère, ma fille, qui est soignante, ont été vaccinés avec l'AstraZeneca et tout va bien. » Charles Villeneuve.
Oui. Alors, le vaccin de substitution... AstraZeneca arrive, c'est l'américain Johnson & Johnson, qui est fabriqué à l'identique de l'AstraZeneca, mais à l'identique.
Mais qui a un autre nom. Donc
et qui a un autre nom, absolument.
Et qui est sur une dose, une vaccination.
Qui est sur une dose et qui est facile à, de toute façon, conserver entre 2 et 8 degrés. C'est vrai. Mais il n'empêche que il semble, enfin les soupçons de la plupart des médecins que j'ai interrogés, c'est qu'il peut lui aussi provoquer des thromboses. Et ce qu'il y a de dommage et de regrettable par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est que autant les doses inutilisées d'AstraZeneca augmentent, autant les cas de thrombose sont anecdotiques.
Alors, non, mais on va rappeler les chiffres quand même pour tous les gens qui nous écoutent. Il y a eu suspicion pour 34 thromboses pour 5 millions de personnes vaccinées, soit une incidence plus faible qu'en population générale. Voilà pour les faits. Marion Mourgue.
Mais c'est pour ça que si le gouvernement autorisait que des jeunes gens ou d'autres... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je ne sais même plus à qui est réservé l'AstraZeneca. Ça a tellement changé que moi-même, je ne sais plus.
Au-dessus des 55.
Oui.
Et bien, si à un moment, on disait les 35, 50 ans, allez-y, il y a des créneaux et qu'on mettait les créneaux
même
sur les réseaux sociaux.
Même sans comorbidité.
Je suis sûre qu'il y aurait.
Redites-moi ça.
Je suis sûre qu'il y aurait un engouement aussi. Donc, il y a un moment, il va falloir desserrer les taux si on veut que justement ces doses ne soient pas perdues. C'est tellement ridicule qu'elles soient perdues aujourd'hui alors qu'on souhaite être vacciné. Que créons des opportunités aussi.
Oui, surtout qu'on est plutôt dans une vaccination qui est à touche-touche avec les livraisons. Ça, c'est plutôt assez à flux tendu. Voilà, je cherchais le mot, le flux dans l'oreillette.
Ils ont monté la limite. Hein. Marion disait 55 ans, c'est ça, 50 ans. Ou c'est vous qui disiez ça.
Oui.
Ils ont monté à 65 ans.
Mais ça ne cesse de changer. Donc en fait, on est tellement
perdu.
Sauf pour les soignants.
Allez, 18h48, on marque une nouvelle pause. On va parler de La République en marche. Vous savez qui fête ses 5 ans. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? À tout de suite. La suite du débat des grandes voix avec toujours Charles Villeneuve, Marion Mourgue du Figaro et Guylaine Autonomeur de Challenge. Alors, que reste-t-il, oui, de La République en marche? Cela fait 5 ans aujourd'hui que le parti présidentiel a vu le jour. C'était le 6 avril 2016. Emmanuel Macron officialisait la création de son mouvement qui devait révolutionner la vie politique.
J'ai mis du temps, j'ai réfléchi. J'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Moi, je suis d'un gouvernement de gauche et je l'assume totalement. Mais je veux travailler avec des gens qui se sentent aujourd'hui à droite. Ce n'est pas un mouvement pour avoir un énième candidat de plus à la présidentielle. Ce n'est pas ma priorité aujourd'hui. Ma priorité, c'est la situation du pays.
C'était le 6 avril 2016 à Amiens. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, Marion Mourgue?
C'est toujours normal qu'un parti dont le candidat a été élu soit un peu en difficulté. Mais ce qui manque là, c'est les élus. C'est-à-dire que
l'ancrage territorial.
Il n'y a pas d'ancrage territorial, on le voit à chaque élection. Et c'est ça qui, à un moment, quand justement il y a des coups durs, des crises, des tempêtes, ça permet de solidifier le parti. Là, aujourd'hui, il y a peu d'existence politique, il y a peu d'idées qui émergent de ce parti. Et comme il y a peu d'ancrage, il n'y a pas de relais.
Mais à contrario, on aurait pu imaginer que le parti trouve un nouveau souffle à l'issue de l'élection du président de la République en 2017.
Oui, mais le souffle, il était lié à Emmanuel Macron et pas tant au parti. C'est-à-dire que ce n'est pas un parti qui a fait émerger une personnalité, c'est une personnalité qui a créé une sorte de coquille vide après.
Charles Villeneuve.
C'est un parti beaucoup trop macro-dépendant. Finalement,
centralisé.
Il s'en est servi pour une conquête et derrière, il n'y a absolument aucune doctrine. Il n'y a rien. Et on le voit, c'est un parti qui n'a pas travaillé notamment sur l'ancrage territorial, Marion le disait à l'instant, Et c'est vrai, on a vu les résultats des municipales. Et il me semble, d'après évidemment les mesures, les indications, les sondages, que ce qui va se passer en juin au régional et au départemental, oui, ça va être de la même eau qu'au municipal.
Si les élections ont lieu.
Et pourtant, sur le papier, Guylaine Ottenhamer, sur le papier, au départ, tous les signaux étaient au vert. 420 000 adhérents revendiqués, 23 millions d'euros annuels, ce qui en faisait le parti le plus riche de France.
C'est toujours le cas.
C'est toujours le cas,
et puis,
oui.
Et puis un élan et une espérance.
Oui, mais moi, je dirais que ce n'est pas complètement raté. Ils sont quand même un président de la République, la majorité à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui a manqué ? D'abord, les personnalités. Il y a peu de personnalités fortes parmi les élus. Mmh. Ça a été un peu le choix.
Ça veut dire que le pari de la société civile, ça marche pas.
Mais je crois que même... Je vais aller plus loin. Je crois que dans le choix des candidats, une des conditions pour être choisi, c'était de ne pas être un trop fort en gueule. Mmh. Ils voulaient un parti godillot. Ce qui a fait que le parti du général de Gaulle, qui partait de scratch lui aussi, a existé, c'est qu'il y avait des personnalités fortes, issues de la guerre et de la résistance. Là, on a des personnages très fades. Maintenant, l'avenir de LREM dépend de la présidentielle. Si oui, Macron est réélu, ils auront peut-être le temps de s'implanter. Sinon, ça va devenir comme l'UDF, c'est-à-dire le MoDem, un parti qui va aider la droite ou la gauche. Voilà, pour le moment, je trouve que quand même, ils sont, comme vous le disiez, le parti le plus riche, le plus d'élus à l'Assemblée.
À condition qu'Emmanuel Macron s'appuie sur En Marche pour faire la campagne. C'est pas évident, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron...
Il s'est dit qu'il aimerait créer un nouveau parti.
Oui, ou essayer de... Finalement, il peut aussi changer de majorité, c'est-à-dire qu'il peut s'appuyer sur la droite et le centre pour un prochain quinquennat, et de fait, changer... prendre soit un autre parti, soit en créer. On sent que ce n'est pas En Marche qui lui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'il souhaite faire. Donc, qu'il s'appuie sur cette structure ou sur une autre, on sent que ce n'est pas un problème pour lui. Quoi.
Et puis, ni gauche ni droite, est-ce que ce n'est pas un désavantage, finalement, au bout du bout ?
Mais de toute façon, ils n'ont pas réussi à créer un tronc commun. Pas même une doctrine, un tronc commun. D'ailleurs, il y a pas mal de députés qui se sont baladés, qui sont partis ailleurs. C'est quand même relativement
rare.
C'est
vrai qu'il y a beaucoup d'éditorialistes qui cherchent depuis 4 ans à comprendre ce que c'est le macronisme.
Et Guylaine disait quelque chose à propos du Parti gaulliste. Le Parti gaulliste ne s'est pas implanté en 5 ans.
Non.
Il s'est implanté, c'est pour ça qu'il va changer, il peut changer. Oui. Mais il n'y arrivera pas sur le plan de l'implantation, notamment territoriale. Parce qu'on ne fait pas ça ni en 5 ans et à peine en 10 ans. Et donc, il va falloir compter avec le temps, d'autant qu'il a... Il sort, si vous voulez, il va se présenter, sa campagne présidentielle va se dérouler à propos d'une crise sanitaire qui a tout bousculé.
Oui.
Dont les résultats, de toute façon, sont quand même incertains jusqu'à présent.
Oui. Vous pensez d'ailleurs, Marion Mourque, pardon, question connexe, mais il peut être empêché, Emmanuel Macron, de se présenter ou pas ?
Un président peut toujours être empêché... aujourd'hui, avec la crise sanitaire et avec les derniers, avec les précédents qu'on a eus, on voit que c'est plus forcément logique qu'un président soit en capacité de se représenter. Mmh. Après, on voit l'homme qu'est Emmanuel Macron assez orgueilleux, donc on peut imaginer qu'il ira jusqu'au bout et tentera, même s'il est battu. Mais je rebondis juste sur ce que disait Charles Villeneuve sur l'histoire du temps. Aujourd'hui, on voit même que les députés En Marche n'ont plus forcément envie de ce temps et d'être à nouveau candidat. Mmh. Et c'est là aussi un changement avec ce qui a pu se passer dans précédemment, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un mandat. Et ouais, ensuite, on passe à autre chose.
10 secondes,
moi, je ne crois pas une seconde qu'Emmanuel Macron ait envie de renoncer. Il n'est pas François Hollande, ni sur le plan du caractère, ni rien. Et
surtout
donc, je dirais
que
pour Édouard Philippe, la prochaine présidentielle, c'est un peu râpé pour lui.
Non, et puis,
bon,
il faut
2027.
Et puis, il faut reconnaître qu'il n'a pas occupé un emploi fictif, contrairement à son prédécesseur.
Bien. Merci Charles Villeneuve, je vous laisse ce mot de la fin. 18h56, merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mardi.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans un instant, vous restez avec nous, toute l'info avec Isabelle Millet, le journal, et puis dans le Club des Idées. Grand débat ce soir sur les nouveaux combats du féminisme. A tout de suite.